par la Russie, pays qui ensanglante l'Ukraine depuis 1000 jours. Faut-il capituler et abandonner les territoires conquis à l'armée rouge et que les Ukrainiens se contentent de vivre dans un pays condamné à la partition de leur territoire ? Comme toujours, le plus grand danger surgit lorsque l'heure des négociations approche. L'escalade pour la désescalade, nous dit-on. Ceux qui ont connu la guerre n'y croient pas beaucoup. Poutine est un ogre qui veut restaurer son empire et chacun sait que les tigres ne deviennent jamais végétariens. On va en débattre ce soir dans Punchline.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
D'abord, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Pierre Palmade demande pardon aux victimes. L'ex-humoriste est jugé pour l'accident de la route qu'il a provoqué l'an dernier sous l'emprise de stupéfiants. Pierre Palmade est en état de récidive légale en raison d'une précédente condamnation en 2019. Il encourt une peine de 14 ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende. Les parties civiles espèrent que les procès des viols de Mazan servent d'exemple historique en France et au-delà, notamment sur les questions du consentement, de la soumission chimique ou plus généralement des rapports hommes-femmes. Les avocats des parties civiles invitent toute la société à prendre conscience de ce fait. Le chef du Hezbollah assure qu'il n'acceptera aucun accord de cessez-le-feu avec Israël qui viole la souveraineté du Liban. Israël, de son côté, dit vouloir conserver une liberté d'action contre l'organisation terroriste. Le Hezbollah affirme que son groupe allait viser le centre de Tel Aviv en riposte aux récentes frappes israéliennes sur Beyrouth. Enfin, 411e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Deux de ces otages sont français, ils se nomment Ofer et Ohad. Nous pensons à ces otages ce soir, à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. 18h02 sur CNews et sur Europe 1, nous sommes avec Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy.
Bonsoir.
On a le plaisir de recevoir un maire, pas n'importe lequel, Franck Louvrier, bonsoir. Bonsoir. Maire de La Baule, ravi de vous accueillir. C'est le congrès des maires en ce moment.
Oui,
pas très loin
demain.
D'ici, ouais, pas très loin de nos studios, porte de Versailles. Thomas Bonnat est là du service politique de CNews, bonsoir. Naïma Mfadel, essayiste, bonsoir. Et Philippe Guibert.
Bonsoir. Alors, Laurence.
Cher Philippe, on va parler de... Allez, on commence par l'hiver de la météo. Hein. Vous étiez dehors il y a quelques instants, vous m'avez dit il fait froid. 49 départements en vigilance orange. Écoutez, ça c'est une petite chanson qui est un hommage à nos particularités régionales, monsieur Louvrier.
Oui, vous avez raison, mais c'est une bonne nouvelle qui est de la neige.
C'est étoile des neiges.
Je discutais avec des maires de montagne qui étaient ravis de voir la neige arriver ce matin, notamment les maires des Alpes.
Oui.
Enfin la neige arrive, c'est leur inquiétude.
Mais là, en région parisienne, je ne suis pas sûre que les Parisiens vont adorer.
On a un pays, la France, quand on est lié à la neige, on est un peu paniqué. Hein.
Voilà, c'est le petit refrain étoile des neiges.
Moi, à La Baule, il y a eu la neige.
Philippe Guibert.
La dernière fois, c'était
assez rare. Ouais,
oui, c'est rare. Ça tient pas beaucoup.
Bon,
bon voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Il va quand même y avoir 49 départements en vigilance. Écoutez juste les précisions de Loïc Roosevelt, parce qu'il faudra faire attention sur la route.
La dépression nommée Caetano apportera les premières chutes de neige en pleine de la saison. Un épisode hivernal précoce pour les régions concernées est suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles. Soyez particulièrement prudents. De nombreux départements situés sur un axe allant de la Bretagne jusqu'au sud de l'Alsace en passant par la région parisienne ont été placés en vigilance orange par les services de Météo France à la mi-journée pour un événement prévu demain à partir de 16h et jusqu'à la nuit d'après. Il est prévu 2 à 5 cm de neige en plaine localement, jusqu'à 10 cm au-dessus de 200-300 mètres d'altitude et jusqu'à 15-20 cm par exemple sur l'est de la Franche-Comté. Pour la région parisienne, seulement quelques centimètres sont prévus. 1 à 3 cm sur le Vexin, sur le nord de l'Île-de-France, 6 ou 7 cm sur les collines des Yvelines et de l'Essonne et donc peut-être un petit saupoudrage pour Paris même, mais cela peut suffire à créer quelques complications sur les routes.
Effectivement, un Parisien qui freine sur la neige, nous, Savoyards, ça nous fait beaucoup rigoler. Non, mais quand même, attention, Philippe Guibert, hein. Soyez prudent demain.
Je suis toujours prudent.
Très bien. Allez, pour les maires, mon cher Franck Louvrier, il y a beaucoup de sujets. L'aménagement du territoire, évidemment. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de colère aussi. On parle de celle des agriculteurs, on va l'évoquer dans un instant. C'est quoi les grands points de fixation pour vous, les maires, aujourd'hui ?
Bon, d'abord, parler de la PTO, si vous me permettez de faire la transition, mais c'est quand les maires tous, la République s'enrhume. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont très préoccupés d'abord par le poids de ce que leur impose l'État au quotidien. Et puis, ils sont préoccupés aussi par les mesures financières qui doivent être prises, qui sont une nécessité, mais qu'il faut bien sûr appliquer dans l'ensemble des budgets. Et c'est pas simple parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Et donc, de ce fait-là, il y a une inquiétude sur ce sujet. Et puis, il y a aussi, je pense, une forme de fatigue républicaine chez eux. On le voit bien.
Ah oui.
C'est plus que de l'exaspération. C'est une façon ou d'une autre. Vous savez qu'il y a 40 maires en France qui démissionnent par mois depuis le début du mandat.
C'est énorme.
De 2020. Mmh. On se rend pas compte. Ça prouve bien la difficulté de cette responsabilité. Ce sont des bénévoles en très grande partie. Hein. Ce sont des gens qui sont très peu rémunérés et qui font ça plus de 70 heures par semaine.
Avec tous les risques. On va juste écouter le témoignage de Michel Lottier, maire de Blauzac dans les Alpes-Maritimes. Lui, il déplore le mur administratif qui ne comprend pas la ruralité. Écoutez-le.
Il y a le gouvernement qui essaye de gouverner, l'État qui dirige et les maires qui subissent. Quand vous déposez un dossier, on ne regarde pas comment on peut vous arranger. On regarde comment vous le bloquez. Quand est-ce que les gens d'en haut comprendront qu'il y a la ruralité. On représente 80% du territoire. Notre France, elle a un sens. Notre France, elle a un but. Elle a un passé. Actuellement, vous savez quoi ? On est dépassé. On est dépassé parce qu'on ne crée pas l'envie de vivre et de créer en France. Vous savez, le mur de Berlin, il est tombé. Ce qui serait beau en France et qui tombe, c'est le mur administratif.
Geoffroy Lejeune, ça, c'est du témoignage du réel, quoi, du concret. Le mur administratif.
Et puis là, vous mettez d'accord 100% des maires, quelle que soit leur étiquette politique. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on leur tend le micro ou qu'on les interroge, on comprend qu'il y a ce problème monstrueux qui est un problème, alors j'imagine qu'il n'est pas que français, mais en France, il touche quasiment toute la population, quasiment toutes les catégories. C'est gravissime. Moi, j'entends aussi souvent l'organisation administrative et territoriale de notre pays qui est devenue en fait incompréhensible pour un certain nombre d'élus. Alors je sais pas si c'est le cas.
Il y a un millefeuille qui est incompréhensible pour l'ensemble des Français.
Notamment les petits maires, parce que je ne sais pas comment vous vous en sortez à la boule, mais j'imagine que vous êtes pris au sérieux par les collectivités.
Non, puis moi j'ai une administration, et il y a beaucoup de maires qui n'ont pas d'administration, et donc de ce fait-là, qui se débrouillent tout ça. Il y a une vraie solitude chez les maires.
Naïma Mpanel ?
Non, mais je rejoins ce que vous venez de dire, monsieur le maire, parce que c'est vrai que les petites collectivités n'ont pas les collaborateurs, les cadres qui sont experts dans leur domaine et qui peuvent justement les alléger de cette surcharge administrative. Moi, j'avais discuté aussi avec un maire qui me disait « Mais pourquoi dans les sous-préfectures, on n'a pas quelqu'un qui soit chargé de cette administration ?» pour justement alléger les maires, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est la désespérance aussi face à ça.
Il y a quand même un lien maire, préfet et sous-préfet qui existe et qui est de plus en plus solide. Faut être honnête, les relations avec l'État sont généralement bonnes et même très bonnes sur certains territoires. Mais c'est surtout une forme qui manque de liberté. En fait, le lien entre la République et la démocratie, c'était aussi la possibilité de lever l'impôt. Alors qu'aujourd'hui, ils ne lèvent plus l'impôt. C'est une dotation de l'État. Donc ils sont devenus un peu des fonctionnaires de l'État, alors que la liberté locale, elle doit exister. Et ils doivent prendre la responsabilité aussi de lever l'impôt et de le faire quand ils le souhaitent ou quand sa population peut le faire.
Il y a aussi les problèmes de sécurité qui sont omniprésents pour les maires. On va écouter Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il s'est exprimé cet après-midi au Sénat, justement sur ces questions de violence et d'insécurité dans la ruralité. Écoutez-le.
Je vous assure que quand les élus se sentent concernés, quand ils réunissent, notamment dans des comités locaux de sécurité, l'ensemble des partenaires, les policiers, bien sûr, les gendarmes, mais aussi la justice, les bailleurs sociaux, il y a des résultats. Quand on fait de la vidéoprotection, quand on a des polices municipales, quand celles-ci sont armées, il y a des résultats. Et ça, c'est important à dire. C'est l'idée que je porte et que je continuerai à porter parce que sans les élus locaux, sans les maires, nous ne pourrons rien. Et Paris ne sait pas tout. C'est la raison pour laquelle nous aurons autant de plans départementaux de restauration de cette sécurité publique qu'il y aura de départements, mais il faudra une réponse sans doute plus large.
Thomas Bonnet, il est sur tous les fronts, Bruno Retailleau. Hein.
Il est sur tous les fronts et on le voit de plus en plus justement aborder d'autres thématiques. Mais c'est intéressant parce qu'il y aura une loi qui sera débattue à partir du mois de janvier portée par Madame Gatel justement sur le statut de l'élu. On parle là de la protection notamment des maires parce qu'on a vu une recrudescence des actes de violence contre les élus. Ce que je trouve aussi particulièrement frappant sur le poids administratif, c'est qu'en fait, vous interrogez les maires, ils vous disent il y a trop de poids administratif. Vous interrogez les agriculteurs, ils vous disent il y a trop de paperasse. Vous interrogez les policiers, ils vous disent on passe notre temps devant un ordinateur. Il y a peut-être un sujet auquel s'attaquer là.
Oui, Bruno Retailleau, c'est un élu rural. Et il a un problème
Vendéen.
De délinquance, vendéen, de ma région, des Pays de la Loire. Mais c'est surtout, c'est qu'il y a un problème de délinquance, et j'en parlais justement avec des maires hier et aujourd'hui, qui s'étale dans toutes les petites communes. C'est-à-dire, le trafic de drogue aujourd'hui, il n'est pas uniquement dans les grandes communes. Et justement, même, pour être tranquille, il faut plutôt aller dans des petites communes. Et donc, de ce fait-là, il y a du trafic de drogue important, il y a des points de deal même parfois dans des toutes petites communes. Donc, c'est très compliqué de pouvoir maîtriser l'ensemble du territoire, parce qu'on s'aperçoit que ça explose de façon, je dirais, géographique. Et là, on ne peut plus concentrer nos forces à un endroit.
Et vous dites que c'est les dealers, pour être tranquille, qui viennent dans les petites communes.
Bien sûr,
c'est ça, c'est pas les habitants.
Non. Parfois, ils viennent chercher quand même leur consommation à l'extérieur des grandes villes, parce qu'ils savent que les grandes villes, elles sont vidéoprotégées. Ils savent qu'il y a plus de policiers ou plus de gendarmes, alors que dans les petites communes un peu plus éloignées des grands centres urbains, vous pouvez faire votre deal tranquille. Et donc, c'est aussi ça la difficulté, parce que vous n'avez pas des effectifs qui sont, qui peuvent couvrir l'ensemble du territoire.
Philippe Guibert.
On discutait tout à l'heure des polices municipales et de leur armement. Mmh. Est-ce que, alors peut-être qu'à La Baule, qui est une ville qui n'est pas pauvre...
C'est pas un problème de pauvreté, c'est un problème de volonté.
Vous croyez ?
Ah oui,
il n'y a pas des villes qui ont très peu de moyens pour organiser une police municipale.
C'est pas le sujet, parce que vous savez, il y a deux ans, moi, ma police municipale est venue me voir. Et elle m'a dit, voilà, il faut que vous nous protégiez, monsieur le maire. Et donc, vous devez nous doter d'armes létales, c'est-à-dire d'armement... d'armes qui peuvent avoir de la balistique, tirer, alors qu'ils avaient déjà des tasers. Donc j'ai fait passer au conseil municipal, à la majorité, nous avons accepté qu'ils soient dotés d'armes létales. Et depuis un an, ils sont dotés d'armes létales. Mais vous me direz, c'est un problème de volonté, parce que d'abord, il y a peu de policiers municipaux dans les petites communes, hein, et parfois même c'est les gendarmes. Mais ce coup-là, c'est un choix que l'on fait. Et puis parfois, la politique, c'est de faire des choix, c'est de décider. Donc ouais, de dire, on met plus sur la sécurité, ce qui est mon cas. Je mets beaucoup sur la sécurité et je suis très prudent là-dessus, parce que je sais très bien que même si on a toujours le sentiment de sécurité dans certaines communes, les problèmes, ils arrivent et que la sécurité l'insécurité, elle est perméable. C'est-à-dire qu'elle passe les frontières à des communes.
Absolument. Mais est-ce que ça ne déresponsabilise pas l'État? En ce qui concerne les effectifs de policiers ou de gendarmes.
C'est une excellente question, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a des polices municipales aujourd'hui en France, il y a des gendarmes et des policiers. Ces polices municipales, elles ont une raison d'être, c'est de la police de proximité. Oui. Mais comme c'est de la police de proximité, c'est souvent les primo-intervenants, et quand c'est les primo-intervenants, c'est parfois eux qui arrivent sur le phénomène de délinquance en premier. Et vous savez, la délinquance, elle ne fait pas le tri entre ceux qui sont armés et ceux qui le sont pas. Ils sont aussi violents pour les uns que pour les autres. Même parfois sur les pompiers maintenant, où on voit des pompiers se faire agresser. Donc voilà, donc il faut les protéger. Vous savez, protéger ceux qui nous protègent, c'est essentiel.
Mais justement, monsieur le maire, est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de la violence, de l'ensauvagement de notre société, et puis ce que vous avez dit, parce que moi je l'ai remarqué il y a une dizaine d'années, avec ce déplacement de ces dealers qui vont dans les petites communes pour être tranquilles, est-ce qu'il ne faut pas revoir la police municipale pour que les communes soient dotées, même les petites communes, d'une police municipale qui soit, on va dire les choses, armées pour faire face à ces délinquants, mais qui soit financée finalement par l'État?
Bon, d'abord, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Vous pouvez l'aborder de façon intercommunale. Quand vous avez un centre de surveillance sur 20 pour mettre, par exemple, vos caméras de vidéoprotection, vous pouvez le faire à l'échelle intercommunale. Vous ne pouvez pas le faire uniquement à l'échelle communale. Parce qu'une petite commune, elle n'a pas besoin d'avoir un centre de surveillance sur 20. Par contre, vous pouvez le mutualiser avec plusieurs communes. Le fait est, c'est que aujourd'hui, la police municipale, c'est un recrutement qui est compliqué. Parce que vous avez, malheureusement, près de 35 000 communes qui veulent recruter des policiers municipaux. Donc, il faut que l'État nous aide aussi pour former plus de policiers municipaux. Et puis, ce qui est essentiel, et à mon avis, il faut nous donner plus de moyens techniques et technologiques. Hein, c'est-à-dire, par exemple, regardez la police municipale, elle ne peut pas avoir accès aux fichiers d'immatriculation des véhicules. Elle ne peut pas fouiller un coffre de véhicule. Donc tout ça, il faut nous laisser plus de possibilités. Bien sûr, parce que d'abord, c'est du travail en moins pour la police nationale, et puis le fait est, c'est qu'ils ont besoin de ces outils au quotidien.
Allez, Franck Louvrier est notre invité. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et Europe 1. On parlera d'une autre élue, du statut d'une autre élue. Députée, c'est Marine Le Pen qui a contre-attaqué après les réquisitions très sévères contre elle, notamment avec une inéligibilité exécutoire. On parlera aussi du procès de Pierre Palmade et de ce qui se passe du côté des agriculteurs, cette grande colère des agriculteurs. À tout de suite.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
À l'occasion du Black Friday, profitez des ventes immanquables Nocibé.
Un parfum, c'est un peu plus qu'un simple cadeau. C'est une évocation, un souvenir, des émotions. Jusqu'au 2 décembre, l'eau de parfum Stronger With You Intense de Emporio Armani 100 ml est à moins 34%. Oui, moins 34%. C'est le moment de gâter ce que vous aimez. Conditions en magasin ou sur nocibé.fr. Nocibé, la beauté partagée.
Claire, pour son électricité, elle pense que vert, ça rime toujours avec cher. Mais sachez Claire qu'avec l'offre d'électricité verte ELEC référence 1 an d'Engie, en ce moment, le prix du kilowattheure est en moyenne 24% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'au 20 décembre, vous avez jusqu'à 100 euros offerts. Eh oui, pour Engie, vert, ça peut rimer avec moins cher. N'est-ce pas, Claire? Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir conditions de l'offre et du comparatif de prix sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Nous sommes BYD, le leader mondial du véhicule électrique et hybride. Essayez BYD Seal UDMI, le nouveau SUV hybride rechargeable. 1080 km d'autonomie, affichage tête haute, régulateur de vitesse adaptatif et toit ouvrant de série. Un confort remarquable à partir de 35 990 euros. Également disponible en version 4 roues motrices. BYD, venez rencontrer les experts de l'électromobilité.
Offre valable jusqu'au 30 novembre. Conditions sur byd.com/fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Grand frais.
Salut Aurélia, je devais t'emmener acheter des décos de Noël aujourd'hui, mais je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un panettone moelleux et gourmand à tomber. Mais t'as qu'à remettre la déco d'Halloween, hein? Une tête de zombie à la place de l'étoile du sapin, ça va faire plaisir aux enfants ça.
Chez Grand frais jusqu'au 23 novembre, le panettone de 900 grammes est à 4,75€ si de acheter. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais, le meilleur marché.
Soit 5,28€ le kilo. Pour votre santé, évitez de grignoter.
CNews et Europe 1, Punchline.
Des débats, de l'analyse, du décryptage, c'est dans Punchline. À tout de suite.
La Poste.
Carton plein, expression qui décrit une action très réussie. Ou bien un colis rempli dans lequel on ne peut plus rien mettre. Donc si on veut expédier d'autres objets, eh bien il en faut un deuxième colis.
Alors jusqu'au 23 novembre, profitez des bons plans colis à La Poste. Pour un colissimo acheté, le deuxième identique est à moins 30%. Renseignez-vous en bureau de poste ou sur laposte.fr.
Peugeot. Et si vous profitiez du Black Friday pour changer de voiture cette année? Avec le Black Friday Peugeot jusqu'au 30 novembre, c'est le moment ou jamais. Profitez d'offres exceptionnelles sur des milliers de modèles disponibles immédiatement. Et chez Peugeot, vous avez le choix. Électrique, hybride ou essence, nous conjuguons le plaisir de conduire à toutes les énergies. Alors, pas une minute à perdre, car vous savez ce qu'on dit? Premier arrivé, premier assis au volant. Rendez-vous dans votre point de vente ou sur Peugeot.fr.
Dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
Les Effacés, c'est le thriller de Bernard Minier. Le Point, une imagination diabolique qui explose dans un thriller musclé. Télestar, du grand Minier, redoutablement efficace. Le Figaro Magazine, brillant, captivant, virtuose. Les Effacés de Bernard Minier, un livre XO. XO, lire pour le plaisir.
Écoutez Europe 1 en DAB+.
Le DAB+, est déjà disponible dans une voiture sur trois.
Vérifiez si votre autoradio est compatible.
Le vrai du faux avec GRDF.
Quand on parle du gaz, on entend parfois...
Non mais le gaz, c'est 100% fossile, hein?
Eh ben, le gaz vert alors? Car oui, nos agriculteurs produisent déjà un gaz local et renouvelable, avec plus de 700 sites de méthanisation en France. Consommer mieux, c'est aussi consommer moins. Faites le grand saut de la décarbonation sur grdf.fr. Quel que soit votre fournisseur, l'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Plus on se voit, moins on se voit. Mais pourquoi se voir si c'est pour se revoir?
Mieux vaut se voir et on verra si on se revoit, non? On peut prévoir de se revoir, mais on préfère prévoir de ne pas se revoir.
Plus on se voit, moins on se voit. En tout cas, c'est notre vision de la révision. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous sur Dacia.fr.
Punchline sur CNews et Europe 1.
18h, 19h.
Laurence Ferrari.
De retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, on va partir à Melun rejoindre Célia Barotte et Laurent Sélarier puisque les réquisitions sont tombées, Célia, dans le procès de Pierre Palmade qui se tient 21 mois après qu'il ait percuté une voiture de plein fouet sous l'emprise de la drogue. Alors, quelles ont été les réquisitions du parquet, Célia? Expliquez-nous.
Eh bien, Laurence, le ministère public vient de requérir 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis pour Pierre Palmade. Pierre Palmade jugé pour blessures involontaires aggravées par deux circonstances retenues par le ministère public. Alors, le ministère public a demandé à ce que dans ces réquisitions apparaisse une obligation de soins, une obligation d'exercer une activité professionnelle et une obligation d'indemniser les parties civiles. Concernant la partie ferme, 2 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de Pierre Palmade. Le ministère public a expliqué qu'il s'agissait d'une peine avec mandat de dépôt à délai différé. Donc la partie ferme ne sera pas aménageable. Il s'agit donc des réquisitions. Ce n'est pas la décision des magistrats. Le tribunal correctionnel de Melun doit délibérer, doit se prononcer sur ces réquisitions. Les magistrats vont-ils suivre ces réquisitions? Puisque je vous le rappelle, Pierre Palmade encourt jusqu'à 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende puisqu'il est en état de récidive. Normalement, la peine traditionnelle pour des blessures involontaires avec deux circonstances aggravées, c'est 7 ans d'emprisonnement. Mais comme Pierre Palmade a déjà été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants, il est en état de récidive et donc la peine d'emprisonnement est doublée normalement. Mais selon le ministère public, lors de ces réquisitions, le ministère public a requéri seulement 5 ans d'emprisonnement.
Merci beaucoup Célia Barotte. Laurence Sélarié, très intéressante ces réquisitions, effectivement Philippe Guibert. Donc 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, ça veut dire 2 ans ferme. On est très très loin du maximum des 14 ans, parce qu'il est en état de récidive, ça a été très bien dit par Célia. Encore une fois, bon, ce sont des réquisitions, c'est pas... Voilà, mais on est saisi, on se met à la place des victimes, on se dit...
À la place de la société.
Un désastre pareil.
Je trouve que ces réquisitions ne sont pas extrêmement sévères. Oui, je suis un peu surpris. Mm-hmm. Je pensais que justement, en plus avec une récidive, puisque le code pénal permet jusqu'à 14 ans, je pensais que les réquisitions seraient plus sévères et qu'elles apparaissent. C'est toujours difficile à dire parce qu'on en parle tranquillement sur un plateau de télé, mais je trouve qu'elles ne donnent pas le sentiment qu'on veut vraiment punir gravement l'addiction, la récidive, dans un cas, dans ses conséquences les plus tragiques et les plus mortelles. Mmh. Et donc, je suis un peu surpris par ces réquisitions.
Geoffroy Lejeune.
Alors moi, je ne dis pas ça pour justifier qu'elles soient aussi faibles, mais n'oublions pas que pour la justice, il n'y a pas d'homicide, par exemple. Donc, il n'y a pas de condamnation, enfin de réquisition contre le fait d'avoir tué quelqu'un, alors que la maman a perdu un enfant qui allait naître. Et ça peut expliquer aussi beaucoup, si vous appliquez purement et simplement le droit, qu'en fait, là, en l'occurrence, il n'y a pas d'homicide. Donc, c'est un accident de la route avec certes des séquelles, mais voilà.
D'accord. Franck Louvoyer, un mot sur ces réquisitions.
Il permettait juste de penser d'abord aux familles, et notamment à cette femme qui a perdu son enfant. Après, quand on s'appelle Pierre Palmade, il y a l'exemplarité. C'est un poids supplémentaire et qui doit être pris en compte dans la peine. Je le pense foncièrement, parce que vous n'êtes pas un inconnu et vous devez justement encore plus assumer votre rôle dans la société.
Naïma Fadel.
Écoutez, punir l'addiction, oui, mais c'est surtout rendre justice. Moi, je ne sais pas comment elle doit être, cette femme, de voir ce réquisitoire qui, finalement...
Cet homme qui a perdu son bébé. Hein.
Oui, cette maman qui a perdu son bébé, puis le gamin qui est défiguré, le monsieur qui
n'arrive pas à retravailler tellement...
Qui n'arrive pas à retravailler, etc. Moi, je trouve malade. Que je ne sais pas quoi penser, parce que justement, comme vous disiez, monsieur le maire, c'est Pierre Palmade. Donc il y a aussi une question d'exemplarité. Donc après, comment après dire aux Français qu'il y a une justice pour tout le monde la même et je pense vraiment à cette maman, à la douleur qu'elle doit ressentir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me fait très mal qu'on ne reconnaisse pas à cette maman qu'elle a perdu son bébé et que ce bébé n'ait pas été nommé.
Il y a le
nommé.
Statut juridique de l'embryon.
Oui, mais écoutez, peut-être qu'aujourd'hui, il faut revenir là-dessus.
Un vieux débat juridique.
Il avait 6 mois et demi, hein, le bébé. Ça veut dire qu'il était le fœtus. Oui, mais vous voyez, je suis maman, Laurence. Pour moi, c'est un bébé.
Bien sûr.
Et il y a 6 mois et demi, vous savez, vous êtes maman, vous le sentez dès 3 mois et demi, bouger dans votre ventre. Et voilà, donc moi je suis peinée.
Terrible affaire. Pierre Palmade qui a dit qu'il était accablé, éprouvé, qui a demandé pardon aux victimes, qui a évoqué le futur, qui a dit voilà.
Non, mais là, surtout il va avoir qu'il était récidiviste, hein, surtout comme l'a dit Oui, il était récidiviste, donc bon. Voilà, ça interroge.
Thomas Bonnet, vous qui êtes du service politique, vous m'avez fait remarquer pendant que Célia Pardex, c'était à peu près les mêmes réquisitions que
Marine Le Pen. Non, c'est vrai, c'est la même peine.
Ils sont quand même, qui n'ont rien à voir.
Non, absolument. Je pense pas qu'on puisse comparer. Ce sont là aussi que des réquisitions.
C'est la même réquisition.
C'est exactement la même peine et qui est requise.
Surprenant.
Dans le cas de Marine Le Pen, je crois que le maximum encouru était 10 ans de condamnation et 10 ans d'inéligibilité. Les procureurs ont mis à peu près au milieu 5 ans et 5 ans.
Avec l'inéligibilité exécutoire.
C'est là qu'il y a débat.
Ah oui, bah oui.
N'importe quel citoyen, pas forcément éclairé comme toi, Philippe, sur la question de la justice, notera que requérir la même peine pour Marine Le Pen et Pierre Palmade, c'est étonnant.
Oui. Je vous vois dodeliner de la tête, monsieur l'ouvrier. Qu'est-ce qui vous dérange?
Moi, je suis très, très mal à l'aise sur l'inéligibilité. Je n'ai pas d'acquaintance, bien évidemment, avec Marine Le Pen. L'inéligibilité des élus, notamment de la loi Sapin 2. Parce que je pense que c'est aux citoyens de décider si quelqu'un doit être élu ou pas. Mm-hmm. Vous pouvez le condamner très fortement, financièrement, bien évidemment. Mais l'inéligibilité, est-ce que c'est vraiment au juge de le décider? C'est les parlementaires qui l'ont décidé.
C'est ce que j'allais vous dire.
C'est l'outil qu'on a donné au juge de pouvoir rendre inéligible un élu, alors que c'est aux citoyens de considérer ou pas s'il est capable ou il est en capacité d'être élu. Donc moi, je suis très partagé sur cette...
On va juste... Écoutez, Marine Le Pen, je vous passe la parole ensuite, Philippe Guibert, qui s'est une nouvelle fois exprimé sur cette possibilité d'inéligibilité. Elle estime que c'est du jamais vu. On écoute la présidente du Rassemblement National à l'Assemblée nationale.
La justice, en quelque sorte, se sert de cette inéligibilité pour imposer en fait un calendrier et empêcher les Français. Mais la question, au moment où on se parle, c'est le problème de cette exécution provisoire, permettez-moi de vous le dire. Bon, et cette exécution provisoire, pour le coup, elle n'a jamais été réclamée contre personne dans les circonstances que nous connaissons, étant entendu, et je suis obligé quand même de le rappeler, que dans l'affaire que vous évoquez, il s'agissait d'utiliser des emplois qui étaient des emplois d'une collectivité, pour les distraire au bénéfice d'un parti. C'est pas du tout le cas de notre affaire. Dans notre affaire, il y a une dotation qui est accordée à chaque député pour embaucher des assistants parlementaires. Nous n'avons pas eu un centime de plus que ce à quoi nous avons droit. J'attends avec impatience précisément que la relax vienne me rendre mon innocence aux yeux de tous, en première instance ou en appel.
Voilà pour ce que dit Marine Le Pen, Philippe Guibert, et après je repasserai la parole à Franck Louvrier.
Non, mais sans entrer dans la défense de Marine Le Pen, qui me paraît discutable aussi sur le fond du dossier, mais sur l'inéligibilité dans la loi de 2016, c'est voté aussi par les parlementaires de votre famille politique.
Tout à fait, non, mais bien sûr.
Par la droite.
Et je crois me souvenir que les parlementaires, il y en avait très peu à l'époque, du RN, c'était même pas opposé, ils s'étaient abstenus. Et j'ai souvenir que Marine Le Pen, dans d'autres circonstances et sur d'autres sujets, dont une personnalité forte de votre famille politique, Carla Juppé, avait été autrement plus sévère en matière d'inéligibilité.
Oui, puis je pense que voter des lois de circonstance, parce que c'était à une période où il y avait eu l'affaire Cahuzac, etc.
C'est deux ans après,
oui, mais
trois ans. C'est après l'affaire Thévenoud.
Et c'est des lois de circonstance. C'est un moment où
tout le monde est très tendu sur ce sujet. L'ouvrier, c'était phobie administrative.
Le ministre le fait est, c'est que parfois, on va très loin dans les démarches, et on le voit maintenant, est-ce que c'est vraiment...
C'est une volonté
de prévenir aussi, de décourager
ce que dit Franck Louvrier.
Moi, je me méfie toujours des lois où on veut tout de suite répondre à un sujet par la loi, et quel que soit le contexte. Et le fait est, c'est que là, on le voit bien, dans cette situation-là, je dirais qu'on est très hésitant. On se demande pourquoi on rend inéligible un élu alors
pour
que les circonstances sont différentes. Je ne suis pas sûr que la dissuasion arrive à ce niveau-là.
Ce que dit Franck Louvrier est d'autant plus vrai qu'à l'époque, il y a eu un vrai moment de psychose collective dans la classe politique. Il y a des gens qui, spontanément, sans qu'on leur ait rien demandé, allaient montrer leur patrimoine aux 20h des grandes chaînes pour dire de TF1, de France 2, etc. Mais des gens, François Fillon l'avait fait, Laurent Wauquiez l'avait fait, moi ça m'a beaucoup étonné. Et qu'en 2016, au moment des débats parlementaires sur la loi Sapin, une grande partie non négligeable des députés voulait que l'inéligibilité soit à vie.
Oui, carrément. Dernier mot là-dessus, Naïma,
oui, mais
on avance.
Pour reprendre ce que vous avez dit, moi j'ai eu le sentiment qu'on a voté à ce moment-là une double peine. pour justement les élus. Et puis ce que je trouve choquant et qui fait qu'aujourd'hui ça freine certaines personnes pour s'engager en politique, c'est le fait aussi de devoir donner tout son patrimoine, toute sa vie, quoi. Bah, je veux dire, ça ne regarde pas.
Bah oui, bah,
je regrette, mais bah, on devrait pouvoir.
Moi, ça ne me dérange pas.
Non, mais écoutez,
je vous partage. C'est très simple, on doit le donner, mais il ne doit pas être rendu public.
Mais, c'est ça, ah, voilà, c'est-à-dire merci.
Le problème, c'est que à la haute autorité, vous avez la publication pour certains des élus du patrimoine, alors qu'on n'a pas besoin de le rendre public, parce que vous savez, ça crée des jalousies. Ça fait plaisir à la presse quotidienne régionale, mais ce n'est pas utile.
Bon, allez, 18h30, on continue de débattre dans un instant. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Audrey Berthaud. Audrey.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. 49 départements ont été placés en vigilance orange, 32 allant de la Bretagne au nord-est sont en vigilance pour neige et verglas, 17 sont en vigilance pour vent. La vigilance va débuter précisément demain à 6h du matin et puis quelques vols au départ de Calvi et Bastia en Haute-Corse ont été annulés aujourd'hui à cause de vents violents. 85% des Français veulent des peines de prison ferme pour ceux qui menacent de mort des enseignants ou des chefs d'établissement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, le JDD et Europe 1. Le parquet de Paris a d'ailleurs indiqué faire appel de la condamnation à une simple amende pour l'auteur des menaces de mort contre le proviseur du lycée parisien Maurice Ravel. Et enfin, les proches de Liam Payne et ses anciens partenaires des One Direction se sont réunis aujourd'hui près de Londres pour les funérailles du chanteur. Liam Payne est décédé, je le rappelle, en octobre à l'âge de 31 ans. Il avait chuté du balcon de sa chambre d'hôtel en Argentine. Sa compagne était bien sûr présente également, son fils âgé de 7 ans.
Merci Audrey Berthaud. J'évoquais au début de cette émission l'hiver militaire qui nous attend peut-être, étant donné l'inquiétude qui vient de la situation entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine qui a tiré des missiles américains sur le sol russe, avec évidemment une réponse russe qui laisse un peu frémir. Explication de Noémie Hardy, je vous passe la parole. Est-ce qu'on est dans une escalade pour la désescalade ou au contraire, est-ce qu'on ne sait pas du tout où on va atterrir? On en débat juste après ce sujet, écoutez.
L'ambassade américaine à Kiev alerte. Via un communiqué, elle met en garde contre une potentielle attaque aérienne russe significative en Ukraine.
Par mesure de précaution, l'ambassade sera fermée et les employés sont invités à se mettre à l'abri sur place. Les ressortissants doivent se préparer à s'abriter immédiatement en cas d'alerte aérienne annoncée.
Washington avait donné dimanche l'autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec ses missiles à longue portée. Attaque MS. Ce qu'a fait l'armée ukrainienne dans la nuit de lundi à mardi en ciblant la région frontalière russe de Bryansk. Les Américains ont aussi annoncé fournir prochainement des mines antipersonnelles pour renforcer les défenses ukrainiennes. Une décision fustigée par le porte-parole du Kremlin.
Les États-Unis sont pleinement dévoués au prolongement de la guerre en Ukraine et font tout ce qu'ils peuvent à cette fin.
Après plus de 1000 jours de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint une défaite de l'Ukraine si Donald Trump décide de stopper l'aide américaine. De son côté, Vladimir Poutine a signé mardi un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire.
Franck Louvrier, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Est-ce que ce conflit peut dégénérer? Là, on a la Russie qui dit qu'elle autorise l'utilisation d'armes nucléaires. Comment nous, Français, devons-nous réagir?
Je vais peut-être vous étonner, mais je pense que Donald Trump peut être faiseur de paix. Mais le fait qu'il soit faiseur de paix potentiel, dans les semaines, les mois à venir, fait que la tension va se démultiplier. Parce que chacun va vouloir montrer qu'il est plus fort que l'autre. C'est assez classique, malheureusement, dans des conflits de ce type. Et donc, on va se retrouver dans une situation où, malheureusement, les tensions vont être plus fortes jusqu'au 20 janvier, c'est-à-dire au moment où le président Trump sera investi. Donc, on est dans cette tension-là, et il faut espérer qu'il n'y ait pas de dérapage. Il faut espérer que cette tension-là reste qu'à un niveau de tension qui soit maîtrisable par les deux parties. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la seule solution qui peut émerger, c'est celle d'un accord entre Poutine et bien évidemment Trump. C'est les deux forces majeures de ce conflit. Je pense que l'Europe sera malheureusement observateur jusqu'au dernier moment.
Franck Louvrier, je disais, un tigre ne devient végétarien, une citation que vous connaissez bien, qui a été notamment prononcée par votre ancien patron Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut être sûr que Vladimir Poutine s'arrêtera au territoire qu'il aurait conquis et qu'il pourrait garder en Ukraine?
Non, mais vous savez, c'est un pouvoir de conviction. Quand il y a eu l'arrêt de la Seconde Guerre mondiale, on ne savait pas comment est-ce qu'allait être faite la partition. Là, ça sera la même chose. Il y aura une partition, est-ce qu'elle restera comme elle restera dans la négociation? On n'en sait rien. Ce qu'il faut déjà arrêter, c'est 1000 jours. 1000 jours de mort quotidien, c'est ça qu'il faut arrêter aujourd'hui. Mm-hmm. C'est l'ambition, je dirais, minimum pour permettre d'éviter ces morts chaque jour des deux côtés. Et puis après, ça sera déjà une bataille dans la guerre.
Mm-hmm. Philippe Guibert, rapidement.
Oui, je trouve, il faut rappeler quand même que la surenchère, elle est d'abord toujours poutinienne. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est d'abord un bombardement massif à la veille de l'hiver, au début de l'hiver, de toutes les infrastructures énergétiques des Ukrainiens qui font qu'ils vont avoir très très froid cet hiver. Et donc, il y a toujours, c'est toujours Poutine qui met la barre très très haut. Et donc, la question, c'est que si on doit y avoir des négociations un jour, on peut le souhaiter, il faut quand même être dans un rapport de force avec lui, puisqu'on est dans, avec un tigre, il vaut mieux être dans un rapport
donc
de force.
Vous voulez lancer des missiles long portée.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui,
des
mais
missiles,
comment le dissuader, puisque à l'évidence, il y a simplement l'armée ukrainienne, ça ne fait pas un pli, il y a une supériorité russe. Mm-hmm. Donc si on veut être en position de force dans une négo, il vaut mieux répondre.
En tout cas, vous faites toujours la paix avec vos adversaires.
Oui, c'est sûr, on fait pas
c'est
la
un
paix,
principe, donc ouais. Malheureusement...
En position de force.
Thomas Bonnet, Emmanuel Macron, évidemment, très mobilisé sur ce sujet-là.
Oui. Oui, qui a parlé de cette posture escalatoire, mais on l'a vu aussi dans le même temps au G20 serrer la main de Sergueï Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères. C'est une image qui a été beaucoup commentée, même si c'est l'usage lors des sommets. Ce que l'on observe quand même, c'est que la France, un peu comme l'Europe d'ailleurs, serait un peu à l'écart,
c'est ce
que disait Franck Louvrier. Ouais. Et la seule question qu'on peut se poser aussi, enfin c'est en tout cas une des interrogations qu'on peut avoir, c'est le rôle de l'administration de Joe Biden dans les 2 mois qui leur restent. C'est-à-dire que là, on a vu effectivement la livraison, enfin l'autorisation d'attaquer avec des missiles américains, puis maintenant la livraison de mines antipersonnelles. On se demande s'ils veulent pas un peu compliquer la tâche de Donald Trump.
Est-ce que c'est une position qui a été critiquée par Donald Trump d'ailleurs et par son entourage?
Évidemment. Merci beaucoup Franck Louvrier, c'est un plaisir de vous recevoir. On va parler dans un instant de la réforme des retraites. Va-t-elle être abrogée? Thomas Bonnet, vous avez des informations. Peut-être que cette réforme qui a tant mobilisé les Français en 2023 va être passée à la trappe?
C'est bien possible.
On en parle dans un instant, notamment avec Marc Fiorentino qui a fait un très bon livre là-dessus sur les retraites. Tout de suite.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
Plus que quelques jours pour profiter du Black November Conforama.
Avec des remises exceptionnelles jusqu'à moins 50% sur tout le magasin. Meubles, déco, literie, électroménager.
Rendez-vous dès maintenant en magasin et sur Conforama.fr.
Conforama, novembre noir jusqu'au 2 décembre. Voir conditions sur Conforama.fr.
Renew. Avec Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 30 novembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne de 600 euros hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 30 novembre, voire conditions sur fr.renew.auto.
Renew. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le vrai du faux avec GRDF. Quand on parle du gaz, on entend parfois...
La pompe à chaleur hybride, c'est pas l'avenir ça.
Bah si justement, la PAC hybride qui combine gaz et électricité est compatible gaz vert, éligible à toutes les aides de l'État et permet d'économiser jusqu'à 40% d'énergie. Consommer mieux, c'est aussi consommer moins. Faites le grand saut de la décarbonation sur grdf.fr. Quel que soit votre fournisseur, l'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Votre vue est précieuse et il est essentiel d'en prendre soin. Mais connaissez-vous la marque de vos verres de lunettes? Chez Essilor, nous innovons continuellement pour votre santé visuelle. Nos nouveaux verres intègrent l'intelligence artificielle pour être au plus près de vos besoins. Rendez-vous chez votre opticien Essilor expert pour découvrir vos prochains verres de lunettes. Essilor, une vision d'avance. Dispositif médical.
Grand frais.
Bonjour, c'est le photographe. Pour votre mariage, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont du délicieux jambon cuit supérieur porc 100% français. Mais j'ai trouvé des photos de mariés qui vous ressemblent. Hein. Je vous réimprime tout ça.
Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, la barquette de 240 grammes de jambon cuit supérieur est à 3,92€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais,
le meilleur marché.
Soit 16,33€ le kilo, 6 tranches dont 2 offertes, élaborées en France, au rayon libre-service, selon stock disponible, liste des magasins participants sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Punchline, CNews et Europe 1.
Des débats, de l'analyse, du décryptage, c'est dans Punchline. À tout de suite.
Renault. Parlons de Renault, numéro 1 des ventes de véhicules hybrides en France. Parlons de Renault Clio et de sa motorisation e-tech full hybride sans recharge qui génère jusqu'à 40% d'économie de carburant. existe aussi en motorisation EcoG, prête à partir des 160 euros par mois.
Numéro 1 en 2024, Clio Evolution EcoG 100 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2500 euros. Offre à particulier du 1er au 30 novembre si Accordiac, selon stock disponible, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
4 ans que Julie et eux sont inséparables, tels les trois mousquetaires ou les cinq doigts de la main. Sauf que là, ils sont quatre. Julie, sa tablette, son stylet et sa coque de protection. La fine équipe. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Jusqu'au 2 décembre, pendant le Black Friday chez Darty, le pack exclusif avec tablette tactile Lenovo M11, son stylet et sa coque de protection est à 179,99€ au lieu de 229,99€. Un prix groupé. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com.
Flash sécurité, alerte innovation.
Verisure lance la première serrure connectée reliée à la télésurveillance 24h sur 24. La serrure connectée Verisure permet de profiter d'une sécurité renforcée dès votre porte d'entrée. Ouvrez et fermez votre porte à distance où que vous soyez. Votre maison est toujours protégée avec Verisure. La serrure connectée Verisure, la nouvelle référence de la sécurité.
Cette innovation vous intéresse ? Rendez-vous sur verisure.fr et bénéficiez de moins 50% sur les packs.
Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Moi, je suis spécialiste du pare-brise chez Carglass. Et je peux vous dire que quand il y a une caméra dans votre pare-brise, c'est un plus pour votre sécurité. Alors quand on remplace un pare-brise avec une caméra, chez Carglass, on la recalibre systématiquement. Et en parlant sécurité, ça tombe bien, parce que jusqu'au 6 décembre, pour toute intervention pare-brise, repartez avec un gonfleur de pneus Osram pour vérifier la pression des pneus avant de partir en vacances. Ça aussi, c'est un plus pour votre sécurité. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Punchline sur CNews et Europe 1.
18h, 19h,
Laurence Ferrari.
18h41, on se retrouve dans Punchline, CNews et Europe 1 avec Marc Fiorentino. Bonsoir à vous, économiste. Alors, le titre de votre livre, j'adore. Interdit aux moins de 60 ans, c'est un roman d'ailleurs. C'est bon, je passe entre les gouttes. Hein.
Vous avez eu une dérogation.
Oui, je sais, mais non, je passe. Bon, attendez, j'ai pas encore 60.
Ben justement, vous avez eu une dérogation.
Tout le monde a la dérogation sur le plateau ou pas? Philippe Guibert ne l'a pas, Naïma, évidemment non. Thomas est un enfant et Geoffroy aussi. Bon, en tout cas, ravi de vous accueillir.
Merci.
Alors, le premier roman, c'était Le guide pour sauver notre retraite.
Ouais, absolument.
Et là, c'est interdit aux moins de 60 ans, on tourne un peu autour du même thème, on est
pas
d'accord.
Tout à fait, pas tout à fait, parce que là, je suis plutôt sur le thème justement de la retraite active, c'est-à-dire que le sujet que j'ai essayé de faire de façon humoristique, c'est de dire, bon, on nous met un peu dans une case à partir de 60 ans. Ouais.
Hein, les seniors.
Ouais, c'est ça, on confond droit à la retraite avec obligation de retraite. Alors c'est très sympa parce qu'on nous met dans une case et puis après on peut nous taper dessus. Puis une fois qu'on nous a mis dans une case,
nous matraquer.
On peut matraquer parce que très clairement, on est une cible nous qui ne manifestons pas et on est une cible qui ne va pas bloquer les transports et qui a du pouvoir d'achat et qui a du patrimoine. Faire. Alors quand on dit qu'il y a du pouvoir d'achat, je voudrais juste faire une petite précision, pas tous hein. C'est-à-dire que non mais c'est très important. Non, c'est très important parce qu'il y a cette image du retraité privilégié qui est totalement fausse quand on regarde la retraite moyenne.
Bonjour, Thomas Bonnet est avec nous.
Oui.
Thomas, la réforme des retraites va-t-elle être abrogée ?
C'est en tout cas une possibilité qui s'est ouverte ce matin parce que un projet de loi a été validé en commission. Le projet de loi, il vient des Insoumis, ils veulent abroger la réforme des retraites. Abroger aussi la réforme précédente, celle qui concernait le nombre d'annuités. Cette réforme-là donc a été validée, elle va être discutée à l'Assemblée la semaine prochaine, jeudi prochain précisément. Et ce qui s'est passé ce matin en commission va sans doute se reproduire la semaine prochaine, c'est-à-dire la gauche et le Rassemblement national qui unissent leurs voix pour parvenir à une majorité. Alors après, le projet de loi va poursuivre sa route, va aller jusqu'au Sénat, il va être rejeté, sauf surprise, puis revenir à l'Assemblée. Parce qu'au mois de février, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre, la niche parlementaire des écolos, et ce sera début février.
Écologistes, mon cher.
Des écologistes, pardon. Et c'est à ce moment-là que cette proposition de loi pourrait être totalement, définitivement adoptée.
Donc vous voulez dire qu'on pourrait, en 2025, avoir l'abrogation de cette réforme des retraites qui nous a tant coûté en 2023?
C'est totalement impossible.
Ça vous rend dingue, Marc Fiorentino?
Non, ça ne me rend pas dingue, parce que c'est totalement impossible.
Mais pourquoi?
C'est totalement impossible parce que d'un point de vue aujourd'hui finance, on n'est pas du tout dans la même situation dans laquelle on était il y a un an et demi, deux ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça y est, le compteur a tourné, l'argent facile c'est fini, le Père Noël c'est terminé, tout le monde a compris que ça n'existait pas l'argent facile, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, malgré la réforme des retraites, c'est pas 40 milliards qu'il faut trouver, c'est 60, 80, 90. Donc revenir en arrière, on aurait une sanction immédiate. Alors la sanction de l'Europe, on s'en fout un peu parce que globalement, elle ne sert à rien. On a été sous sanction pendant 9 ans, ça n'a eu aucun impact. Okay. Par contre, il y a la sanction des marchés.
Ouais.
Et aujourd'hui, avec le niveau de dette qu'on a, si on devait emprunter à un taux beaucoup plus élevé, et on serait sanctionné le lendemain. Donc
Donc j'y crois absolument pas.
Mais dites-le aux élus de gauche et aux élus Rassemblement National qui ont voté pour cette abrogation. Ils vont le refaire à l'Assemblée. Elle sera abrogée, cette réforme.
On se retrouvera sur le plateau. Elle ne sera pas abrogée. Elle ne peut pas être abrogée.
Mais financièrement, elle pourrait. Mais politiquement,
parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la famille politique, et je mettrai peut-être les LFI à part, quelle que soit la famille politique, on a compris. Il y a un sens de l'urgence qu'on a quand même compris. Il y a le côté théâtral. Il y a le côté effet de manche. Et il y a la réalité. La réalité, c'est que pour faire ça, il faudrait quelque part faire voter une motion de censure. Pour faire voter une motion de censure, il faudrait qu'on ait le Rassemblement National qui soit prêt aujourd'hui, compte tenu de ce que vous avez dit en première partie de l'émission. Je crois pas qu'il soit tout à fait.
Marine Le Pen ne l'a pas exclu ce matin encore.
L'abrogation
de la réforme de la traite, c'est un gain politique énorme, à la fois pour le RN et pour la gauche.
J'ai quand même le sentiment que le Rassemblement National aujourd'hui, son souci principal, c'est pas de prendre les rênes du pouvoir aujourd'hui. Je suis pas certain. Je n'y crois absolument pas parce que on va le dire ici, et vous le dites régulièrement, on est dans une situation inimaginable. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport, vous avez dû en parler de la commission du Sénat. Mm-hmm. Irresponsabilité, déni de réalité. Là, c'est le Sénat. On n'est pas dans un pamphlet d'un journal quelconque. On est dans la réalité. Quand vous voyez le séquencement des événements qui sont produits au moment des dérapages budgétaires, on se dit, on est sur le Titanic et puis les gars sont en train de jouer avec l'orchestre.
L'orchestre continue de jouer. Geoffroy Lejeune, qu'est-ce que ça vous inspire?
Je suis très perplexe parce que j'étais assez convaincu par les arguments de Thomas et comment vous dire, j'ai l'impression que les gens, les élus politiques dont vous parlez réfléchissent exactement à l'inverse de vous, c'est-à-dire que il y avait quand même 80% des Français qui étaient opposés à cette réforme. Je suis pas certain que les Français
aient changé d'avis là-dessus.
Et si vous parlez du sens de responsabilité de la France insoumise, on peut dire que là-dessus,
je suis d'accord.
Et le RN, je vois très mal.
Je parle de calcul. Pour le RN et de sens d'irresponsabilité pour les LFI.
Mais alors, vous avez raison, mais sur le RN, juste, je pense qu'ils auraient beaucoup de mal à assumer vis-à-vis de leur électorat de ne pas voter cette abrogation. Et ensuite, sur la question d'exercer le pouvoir maintenant, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est pas impossible qu'avec ces histoires de réquisition et peut-être de condamnation de Marine Le Pen, peut-être qu'à un moment donné, son intérêt, je ne dis pas que ça sera le cas, mais peut-être à un moment donné, son intérêt sera de faire exploser tout ça.
Pour ça, il faut être prêt.
Exactement. Et vous avez raison. Après,
il y a au moment des législatives, bien sûr, ils ne sont pas plus aujourd'hui.
Mais je pense que le procès dont on a parlé tout à l'heure, en attente de jugement au 25 février, à mon avis, au contraire, pousse le RN à accélérer la crise politique. Ils y ont tout intérêt.
À la limite, les spéculations politiques, je n'en sais rien. Mais ce qui était intéressant, c'est ce que vous avez dit sur ce qui nous arrive le lendemain. C'est-à-dire le moment où, pour le coup, les taux vont augmenter et là, la France va s'appauvrir.
On l'est déjà. Je le dis parce que c'est vrai que on a peu conscience quand on connaît pas les chiffres de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on a une image qui est de se dire bon, alors on est un peu le passager clandestin de la zone euro et de l'Allemagne, mais on est dans une situation aujourd'hui qui est dramatique. Si on regarde déficit et dette,
1 000 milliards de dettes supplémentaires.
Mais c'est dingue, 1 000 milliards à un moment où non. Si vous voulez, ce qui est complètement dingue dans cette histoire-là, c'est qu'on ait 1 000 milliards de dettes. Mais qu'on continue à dire, bon, on y allait, on avait besoin, il n'y avait plus de crise de Covid, il n'y avait plus besoin de dépenser autant d'argent. Et surtout, pendant ce temps-là, on mentait à la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on allait expliquer à la Commission européenne, alors qu'on venait d'avoir les chiffres par lesquels on ne pouvait jamais être en dessous de 6%, on leur dit, on va être à 4,6%, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que là, on se fout de la gueule du monde.
Une pléiade de ministres qui sont venus s'exprimer. On va juste les écouter. Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Bruno Le Maire. C'est pas nous, écoutez-les.
Je pense que traditionnellement, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il prenne des mesures pour maîtriser les dépenses. Je crois avoir rappelé que je pense en avoir pris ma part.
Alors je vous propose quelque chose, monsieur le rapporteur général, on va prendre dépense par dépense. Dites-moi, faites-moi la liste des dépenses que vous me reprochez, ou que vous reprochez à mon gouvernement, le montant, et je ne vous parle pas du reproche sur leur nature, mais sur le fait qu'elles seraient venues dégrader la trajectoire et le solde en 2024.
J'étais le chef de cette administration. Et comme chef de cette administration des finances, j'endosse toutes les responsabilités de mes services. Mais il n'y a eu ni faute, ni dissimulation, ni volonté de tromperie.
C'est difficile à entendre, de toute façon.
Mais toute leur défense est fondée sur le fait que c'est la faute aux services de Bercy qui sont trompés sur les recettes.
Les petits hommes gris,
que eux,
les petits hommes gris se sont trompés.
Eux, ils ont tenu les dépenses, mais que Bercy s'est trompé sur les recettes. Ouais. Et que c'est ça qui fait le trou. Bon.
Ce qui est totalement faux. C'est faux.
Évidemment que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il n'y a pas qu'un problème de recettes. Il y a un problème de dépenses. On a, dans ces 1000 milliards, évidemment que ce n'est pas simplement des recettes qui ne sont pas rentrées. C'est un dérapage. Je dirais que si la situation n'était pas très grave, ça serait comique, quoi.
Bon, ça ne l'est pas. Un tout petit mot des agriculteurs, je veux juste qu'on en écoute un avant de revenir à votre livre. Ils sont désespérés, la coordination rurale, la FNSEA, les jeunes agriculteurs manifestent. On va en écouter un dans les Pyrénées-Orientales. Et on va voir que cette crise-là s'agrège à toutes les autres crises.
Je ne veux pas aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre, parce qu'en général, nous sommes toujours perdants quand il y a un affrontement. On a une demande qui est faite au préfet. On a montré qu'on était des gens civilisés, on n'a rien cassé. Après, on a ce que a dit la ministre sur notre compte a énervé énormément tous les manifestants, parce que ce sont des mensonges, ce sont des fake news. On n'a rien cassé. Il n'y a pas une barrière arrachée, il n'y a pas un camion détérioré. Donc on a prouvé que nous étions des gens sérieux, qui veulent être pris au sérieux. Et donc j'espère que le préfet acceptera notre demande et qu'il nous prendra lui aussi au sérieux.
Voilà cet agriculteur qui a été morigéné par la ministre de l'Agriculture. Ils ont raison de...
Ils ont raison, mais après, sans vouloir faire plaisir à tout le monde, ils ont raison, mais il y a un problème qui est un problème général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à régler le problème de la filière agricole par des aides, des suppressions d'aides, et puis on remet des aides. Ce sont que des sparadraps depuis des années, et il n'y a pas de vision globale. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision stratégique, comme dans une entreprise. On a un secteur qui est confronté à des challenges, un secteur dans lequel il y a une concurrence internationale qui est très forte. Il faut qu'on prenne des décisions qui sont des décisions stratégiques. Est-ce que c'est un secteur stratégique ? La réponse est oui, évidemment. À partir du moment où c'est un secteur stratégique, ça veut dire que c'est un secteur qui devient moins dans la réalité économique. Ça devient presque un service public. Est-ce qu'on décide que l'agriculture, c'est un service public ? Ce n'est pas un service aujourd'hui qui, dans les conditions dans lesquelles le métier est exercé, est rentable. Il faut le savoir.
Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils deviennent rentables et qu'ils puissent vivre de leur métier ?
Alors, c'est comme dans tous les métiers, il y a énormément, et c'est ce que je vais dire est affreux, hein, je suis désolé par avance et je ne le souhaite pas, il y a beaucoup, malheureusement, d'exploitations qui ne peuvent que disparaître, puisqu'elles ne sont pas économiquement viables. Et ça, ce n'est pas le gouvernement qui peut, quelque gouvernement que ce soit, qui peut changer la donne. Il faut repenser l'agriculture en France de façon stratégique.
Et la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici 10 ans. Ça aussi, ça compte. Hein.
Oui, mais ça compte.
Parce que qui va prendre la suite ?
J'ai envie de vous dire que c'est presque la bonne nouvelle.
Pourquoi ? Ah oui, parce que du coup, de facto, les exploitations...
De facto, les exploitations vont pouvoir se regrouper, vont pouvoir se professionnaliser et vont pouvoir être beaucoup plus rentables. Il y a un problème de taille. On est difficilement rentable face à une concurrence internationale avec des petites exploitations. C'est triste, mais c'est une réalité. On l'a vécu avec le petit artisanal, le commerce de détail. Oui, on a vécu tout ça. Le commerce de détail n'a pas survécu. Non, on a très peu de commerce.
Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que c'est la fin des petites exploitations à la familiale, disons, à la française.
C'est pas moi qui le décrète.
Non, je sais bien, mais ce qu'on entend et on sent bien que le gouvernement, finalement, c'est ça. Qu'il projette, c'est que finalement, toutes ces petites exploitations très familiales, qui restent aussi très territoires, etc., ils n'en veulent plus, parce que c'est plus le modèle qui est vendu par l'Europe aussi.
Sauf si on décide d'en faire, je dirais, un patrimoine national et un service public. Mais c'est une autre réflexion. On n'est plus dans la sphère économique, on n'est plus dans la sphère de la rentabilité. C'est pas sûr que ça coûte plus cher, d'ailleurs.
Alors, Marc Fiorentino, il nous reste un peu de temps. Dans votre livre, donc vous parlez au plus de 60 ans, on est très nombreux à être concernés, bientôt en tout cas. Il y a quatre catégories pour vous, les bienheureux, les philosophes, les résignés et les résistants. Vous mettez dans quelle catégorie ?
Moi, je suis dans les résistants. C'est-à-dire que moi, je supporte pas l'idée qu'on me mette dans une case. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a dans la société aujourd'hui une sorte de jeunisme. C'est très sympathique. Moi, je suis pour la transmission de génération. Mais je trouve qu'il y a une relation qui est un peu ambivalente avec les gens de plus de 60 ans. On leur dit d'un côté, vous êtes responsable de tout, hein, la planète, la pollution. Si vous avez une retraite, vous l'avez pas méritée. Vous avez tout le patrimoine. On a l'impression l'impression qu'on l'a volé, sauf qu'on a payé des impôts, on continue à en payer dessus. Alors d'un côté, on vous dit, bon, globalement, on ne veut plus. D'ailleurs, il y a quand même un problème économique, je reboucle sur l'économie, c'est que l'emploi des seniors, c'est un drame économique pour la France. Absolument. C'est-à-dire que vous avez un pool de gens expérimentés qui peuvent aujourd'hui créer des entreprises. Pourquoi les start-up, ça doit être des gosses de 25 ans, ça peut être quelqu'un de 60 ans, qui peuvent créer des entreprises, qui ont l'expérience. 9 start-up sur 10 tombent dans les 2 premières années. D'accord, font faillite dans les 2 premières. Vous faites la même chose avec des gens de plus de 60 ans, 9 start-up sur 10 seront encore là au bout de 2 ans.
Et pourquoi ? Parce qu'ils peuvent transmettre leur savoir aussi.
Mais évidemment, c'est-à-dire moi je prône, dans le livre d'ailleurs, je prône les binômes. C'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui, c'est très à la mode de dire, bon, dans des cantines, on mélange des écoliers avec des seniors et autres, mais dans les entreprises aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puissance d'expérience qu'on a après 45 ans, après tout ce qu'on a vécu, par rapport à des gens qui sont parfois extrêmement doués, mais qui débarquent quand même, on l'a vu, hein, même au niveau présidentiel, quand quelqu'un
avec
débarque.
Avec un peu d'arrogance, peut-être.
Avec un peu d'arrogance. C'est-à-dire, on a un peu géré la France comme une start-up, en oubliant qu'une start-up, pour qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle soit rentable. Bon, alors, la Start-up Nation, ça n'a pas fonctionné vraiment. Ah bon. Et donc, mon idée, c'est de dire, bon, voilà, il faut résister. Il ne faut pas accepter. Si vous voulez, d'habitude, ce qui se passe, c'est quand on passe les 30 ans, quand on passe les 40 ans, quand on passe les 50 ans, c'est nous-mêmes qui nous remettons en. Mm-hmm. On se dit, ah là là, c'est un palier. Mais 60 ans, c'est quelque chose de différent.
Là, c'est
les
société.
Gens. C'est les gens.
Vous
c'est la société qui vous disent, non, mais toi, on ne veut plus te voir. C'est-à-dire que non seulement on ne veut plus te voir, mais en plus, tu es coupable sur tout. Et donc, à terme, de toute façon, on te met dans un coin et on va te piquer ton argent. Sauf que le problème, c'est que nous, on accepte ça.
Oui.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on se met dans cette case parce qu'on se sent coupable. Coupable de quoi? On ne sait pas, mais on se sent coupable. Et donc, on essaye d'être invisible. Et ça, moi, je ne le supporte pas, ça m'énerve.
Et votre mot est vraiment sympa, votre héros Sam Ventura, qui dit « Du jour au lendemain, je suis devenu un paria, montré du doigt, on m'a mis dans une case. Le choc a été brutal le jour où j'ai eu 60 ans. » Merci d'être venu nous en parler.
Merci de m'avoir accueilli, c'est très gentil.
Robert Laffont, ce roman. Philippe Guibert, je vous l'offre, le roman de Marc-Philippe
Antonon. Volontiers.
Allez, et vous êtes dans les résistants aussi. Naïm Fadel, merci Thomas
merci.
Bonnet et Geoffroy Lejeune. Je recommande la lecture du JD News, donc avec la crise des agriculteurs en couverture, Valeur actuelle avec Philippe Devilliers, Vendéen, et Paris Match avec Olivier de Kersauzon. Merci à vous tous de votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes, à demain.
Plus on se voit, moins on se voit. Mais pourquoi se voir si c'est pour se revoir? Mieux vaut se voir et on verra si on se revoit, non? On peut prévoir de se revoir, mais on préfère prévoir de ne pas se revoir.
Plus on se voit, moins on se voit. En tout cas, c'est notre vision de la révision. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'1 an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km, prise de rendez-vous sur Dacia.fr.
Roche Bobois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les jours exceptionnels à Roche Bobois. Cédez à vos envies de confort et de design en profitant de prix très séduisants sur une sélection de meubles, canapés et accessoires de décoration. Les jours exceptionnels Roche Bobois, c'est jusqu'au 25 novembre seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebobois.com.
Leclerc, bonjour.
Allô? Excusez-moi, j'ai pas pris mon café ce matin.
Et vous n'avez pas vu notre offre sur Senseo? Les dosettes Senseo en promo.
Senseo?
C'est ça. Jusqu'au 23 novembre, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%.
Non.
120 dosettes, vous en aurez pour un moment.
C'est bon, je suis réveillée. J'arrive.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Bonjour. Vous êtes un pro et vous voulez donner une nouvelle énergie à votre entreprise. Alors avec Peugeot, le leader des utilitaires électriques en France, profitez des bénéfices de l'électrique. Économie à l'usage, silence et accès libre au centre-ville. Et en ce moment, chez Peugeot, nos utilitaires électriques sont au prix du diesel. Par exemple, le nouveau e-partner est à partir de 200 euros par mois.
Exemple crédit bail 60 mois, 75 000 km, réservé aux professionnels pour un nouveau e-partner après un premier loyer de 8 820 euros hors taxes, bonus déduit. Sous réserve d'acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr.
Stéphane Bern, dans votre nouveau best-seller, vous nous embarquez à la Maison Blanche, citadelle imprenable des plus grands mystères.
C'est absolument vrai. Pour la première fois, je vous dévoile les secrets les mieux gardés de ce lieu légendaire et de ses présidents. Vous n'avez pas fini d'être surpris. Vous saurez tout des grandeurs et faiblesses du pouvoir.
Les énigmes de l'histoire à la Maison Blanche. Un livre exceptionnel de Stéphane Bern, aux éditions Fayard.
Chez Auchan, on sait que les meilleurs prix vous donnent le sourire. Surtout pendant mes 25 jours Auchan. Retrouvez par exemple ce bon petit prix plein de vitamines. Jusqu'à samedi, le kilo d'orange à déguster est à seulement 90 centimes. C'est ça, mes 25 jours Auchan. Auchan, avec plaisir. Orange à déguster vendu en filet de 3 kilos à 2,69€, soit 90 centimes. Le kilo, origine Espagne, variété Navellina. Catégorie 1, calibre 5-6. Valable dans vos magasins Eldra et Auchan participants et en livraison à domicile.
Renault Car Service m'offre 30€ sur l'achat et la pose d'une batterie neuve. Est-ce que ça compte ? Oui. Oui, parce qu'une batterie, on n'a pas envie qu'elle nous lâche, on n'a pas envie de tomber en rade au petit matin. Et puis celle-ci est garantie 3 ans, et l'ancienne est recyclée. Alors, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault ?
Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Prix conseillé réservé aux particuliers. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli MyRenault. Numéro 1, source l'Automobile Magazine 2023.
IKEA ! Joyeux Noël, mon chéri !
Qu'est-ce que c'est ?
Ah, oh, bon d'achat IKEA ! Quelle bonne idée !
Tu sais quoi ?
Non.
C'est de la part du sapin ?
Du sapin ?
Vous l'attendiez avec impatience. En ce moment, le sapin Nordman est 100% remboursé en bon d'achat avec la carte gratuite IKEA Family. Réservez-le vite. Hors magasin Paris Intramuros, infos et conditions sur IKEA.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, c'est chaud les marrons.
Ah, tu te...